Chapitre 3, le champ, c'est le monde. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. La prompte obéissance de ces hommes est remarquable, ils ne posèrent aucune question et ne s'inquiétèrent d'aucune rétribution. L'appel du Christ portait en lui une puissance contraignante. Jésus voulait, avec l'aide de ses humbles pécheurs, faire passer des hommes du camp de l'adversaire au service de Dieu. Pour cela, il devait devenir ses témoins et porter au monde la vérité, pure de toute tradition et de tout sophisme humain. La pratique des vertus du Maître, leurs courses et leurs travaux communs, allaient en faire des pêcheurs d'hommes. C'est ainsi que les premiers disciples devinrent ministres de l'Évangile. Pendant 3 ans, ils travaillèrent avec le Sauveur, et son enseignement, ses miracles en faveur des malades, son exemple, les mirent à même de poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée. La simplicité de la foi, l'humilité, le désintéressement apprirent aux disciples à porter leurs responsabilités dans la cause de Dieu. La vie des apôtres contient des leçons pour nous. Ces hommes étaient fermes comme le roc dans leurs principes. Ils ne se permettaient ni de manquer à leurs devoirs ni de se laisser aller au découragement. Ils étaient remplis de vénération et d'ardeur pour Dieu, et leurs intentions comme leurs aspirations étaient pleines de noblesse. Par nature, ils étaient aussi faibles et misérables que n'importe lequel de ceux qui travaillent aujourd'hui dans la vigne du Seigneur, mais ils avaient placé toute leur confiance dans le Sauveur. Bien sûr, ils étaient riches, mais seulement par les qualités de l'esprit et de l'âme. Cette richesse est à la portée de tous ceux qui voudront faire de Dieu le compagnon de tous leurs instants. Ils se donnèrent beaucoup de mal pour apprendre les leçons reçues à l'école du Christ, mais ce ne fut pas en vain, car ils s'unirent ainsi au Tout-Puissant, recherchant une intelligence toujours plus profonde, plus grande et plus large des réalités éternelles. Alors ils purent présenter avec succès tous les trésors de la vérité à un monde qui en avait tant besoin. L'œuvre de Dieu réclame aujourd'hui des hommes de cette trempe, qui se consacrent volontairement et sans réserve à la noble tâche de représenter le royaume de Dieu auprès d'une humanité perdue dans ses péchés. Le monde entier a besoin d'hommes fidèles à leurs principes, qui cultivent sans cesse leur esprit et leur intelligence, ainsi que de gens qualifiés pour diffuser la vérité par la presse afin qu'elle soit rapidement connue de toute nation, toute langue et tout peuple. L'Évangile au monde entier. Il faut que la lumière de la parole de vérité brille partout avec éclat pour que les cœurs soient réveillés et changés. L'Évangile doit être prêché dans tous les pays. Que les messagers de Dieu travaillent en tout lieu, auprès et au loin, agrandissant sans cesse la vigne du Seigneur. Qu'ils le fassent pendant qu'il est jour, car la nuit vient où nul ne pourra travailler. Le Sauveur crucifié doit être prêché aux pécheurs et cette vérité retentir à leurs oreilles, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il faut organiser les églises et en mettre les membres au travail. Lorsque les ministres de l'Évangile iront de l'avant, le cœur rempli de zèle et d'amour, les églises se réveilleront, car chacun de leurs membres sera saisi d'un sentiment d'émulation en constatant le succès des prédicateurs. Il faut des hommes et des femmes fervents, qui se renoncent eux-mêmes, et qui crient à Dieu avec force et avec larmes en faveur des âmes en péril. Il ne peut y avoir aucune moisson sans semaille, aucun résultat sans effort. Abraham fut appelé à quitter son pays pour porter la lumière aux païens. Et, sans un mot, il obéit. Il partit sans savoir où il allait. De même aujourd'hui, ceux qui veulent servir Dieu doivent aller là où il les appelle, se laisser guider par lui et compter sur lui, pour couronner de succès leurs efforts. La terrible situation du monde actuel pourrait donner à penser que la mort du Christ a été presque inutile et que Satan a triomphé. La grande majorité des habitants de cette terre s'est soumise à l'ennemi. Mais nous n'avons pas été trompés, malgré l'apparent triomphe de l'adversaire, le Christ poursuit son œuvre sur cette terre comme dans le sanctuaire céleste. La parole de Dieu décrit la méchanceté et la corruption des hommes telles qu'elles existeront dans les derniers jours. L'accomplissement des prophéties devrait fortifier notre foi dans le triomphe final du Christ et renouveler notre courage pour poursuivre la tâche qui nous a été dévolue. Il nous faut porter l'avertissement sacré et solennel dans les territoires les plus hostiles comme dans les villes les plus corrompues, partout où la lumière du triple message n'a pas encore brillé. Tout homme doit entendre la dernière invitation aux noces de l'agneau. Dans les villes et les campagnes, la vérité présente doit être proclamée, non pas avec une ostentation déplacée, mais avec la puissance de l'Esprit. Lorsque les principes divins que notre Sauveur est venu mettre en évidence dans son enseignement et dans sa vie ici-bas sont présentés avec toute la simplicité de l'Évangile, les forces vives qu'il porte en eux leur permettent de toucher les cœurs. À notre époque, une nouvelle vie, issue de la source de toute vie, doit s'emparer de chaque ouvrier dans la vigne. Oh ! Comme nous réalisons peu la grandeur de notre mission. Il nous faut une foi ferme et décidée et un courage inébranlable. Il nous reste peu de temps pour travailler, nous devons donc le faire avec un zèle inlassable. Le champ, c'est le monde. Nous saisissons ce que signifient ces paroles mieux que les apôtres, à qui fut confiée la tâche de prêcher la bonne nouvelle. Le monde entier est un vaste champ missionnaire, et nous qui connaissons le message évangélique depuis longtemps, nous devrions être encouragés lorsque nous voyons que des territoires, autrefois impénétrables, sont maintenant facilement accessibles. Des pays, jusqu'ici fermés à l'Évangile, ouvrent leurs portes et demandent instamment qu'on leur apporte la parole de Dieu. Des rois et des princes, supprimant des barrières longtemps dressées, invitent les héros de la croix à venir chez eux. Réellement, la moisson est grande. Seule, l'éternité nous révélera les résultats obtenus par les efforts que nous déployons maintenant. La providence nous précède et la puissance divine nous accompagne. Il faut vraiment qu'ils soient aveugles, ceux qui ne voient pas le Seigneur à l'œuvre, et sourds ceux qui n'entendent pas l'appel du bon berger à ses brebis. Le Christ désire que toute créature fasse partie de son royaume. Il souhaite ardemment lui donner l'empreinte de son caractère. Ici-bas, il recherchait l'amour et la coopération de chacun pour étendre son règne jusqu'aux confins du monde. La terre est son bien et il voudrait que les hommes y soient libres, purs et saints. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a été réconforté dans son pèlerinage terrestre par la pensée que ses épreuves et son sacrifice ne seraient pas vains, mais qu'ils amèneraient l'homme à se soumettre loyalement à Dieu. Chaque jour encore, par la vertu de ce sang répandu pour le monde, il y a des victoires à remporter qui ajouteront à la gloire éternelle de Dieu et de l'agneau. Les nations lui seront données en héritage et il possédera les parties les plus reculées de la terre. À cause du travail de son âme, ses regards seront rassasiés. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange, en présence de toutes les nations. La tâche confiée aux disciples est également la nôtre. Aujourd'hui comme alors, il faut des pasteurs, des docteurs et des évangélistes qui fassent connaître le Sauveur crucifié et ressuscité à ceux qui sont sans espoir et sans Dieu dans le monde. Que les messagers du salut aillent de porte en porte. La bonne nouvelle du pardon obtenu par le sang du Christ doit parvenir à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, et être proclamée, non avec froideur et timidité, mais avec clarté, conviction et énergie. Il est nécessaire que l'on voie dans la vie des chrétiens la preuve de la puissance du christianisme. Répandons à travers le monde entier, et non seulement ici et là, la parole de miséricorde que les multitudes attendent et qui les sauvera de la mort. Celui qui contemple l'amour incomparable du Sauveur élève ses pensées et purifie son cœur. Son caractère en sera transformé. Plus il ira, plus il sera une lumière pour le monde, et plus il reflétera, en quelque sorte, ce mystérieux amour. Plus nous contemplerons la croix du Christ, plus nous pourrons faire nôtre la parole de l'apôtre, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.